La marque rouge, une histoire vraie d'après le général Otis Howard. J'étais un matin dans une gare, attendant un train qui était en retard. Un homme singulier m'accosta d'une étrange manière. « Adam, où es-tu ? » me dit-il. En me retournant vers celui qui me parlait, je vis un homme âgé, aux vêtements négligés, avec une longue barbe grise. Mais malgré sa mauvaise apparence, son œil bleu fixé sur moi semblait me percer de part en part. L'évidente sincérité du pauvre homme me toucha. « Adam, où es-tu ? » « Je ne m'appelle pas Adam, » répondis-je avec douceur. Avec un demi-sourire, l'homme, ayant baissé la voix, murmura « Dieu dit à Adam, où es-tu ? Tu n'es pas Adam, je ne suis pas Dieu, mais Dieu peut te parler par mon moyen. » Puis d'un ton solennel, il me demanda « Buvez-vous ?» Boire, moi, est-ce que j'ai l'air d'un homme qui a besoin qu'on lui fasse une leçon de tempérance? Pourquoi me posez-vous cette question à moi qui vous suis complètement étranger? Pardonnez-moi, monsieur, dit-il en me fixant encore avec une expression de doute. Il ajouta, je suis bien aise que vous ne buviez pas. Eh bien, dis-je pour le mettre à l'épreuve, en supposant que je boive de temps en temps un verre de vin ou de bière, où est le mal? Cette question l'excita. « Ah, dit-il, écoutez mon histoire. Si vous ne buvez pas, ce récit pourra vous servir pour sauver quelques pauvres buveurs. »« Peut-être que votre histoire est trop longue, lui dis-je. Vous savez, je pars par le train qui va arriver. » Mais malgré ces paroles, mon homme commença le récit de sa vie. Retraité du service des États-Unis, il habitait avec sa fille veuve à peu de distance de là. Voici d'ailleurs son histoire, à laquelle il manque cependant l'originalité de style du narrateur. 20 ans avant la guerre, j'épousai la plus jolie fille d'un petit village de la Nouvelle-Angleterre. Ma femme était charmante, elle avait de beaux cheveux bruns et des yeux admirables. Elle était aimée de tous dans le pays, car elle était aussi bonne que belle. Nous nous établîmes sur une ferme des environs, et nous eûmes 2 filles, qui devinrent toutes deux aussi jolies que leur mère, et aussi aimable, ce qui est le plus grand éloge que l'on puisse faire d'elle. L'aînée était brune et l'autre était blonde. C'était, monsieur, je vous l'assure, des enfants à rendre fier un roi. Elles s'appelaient Alma et Jeanne. Elles s'aimaient tendrement. Jamais la moindre dispute ne s'éleva entre elles. C'est moi, hélas, qui fis naître les premiers orages dans notre paradis terrestre. Je commençai à boire, d'abord du vin le jour de ma noce, puis du whisky. Cette passion absorba mes ressources à ce point qu'il fallut que mon Alma essayât de soutenir la maison par son travail. Elle devint la maîtresse d'école du village. Le sénateur de l'État, Hiram Brown, habitait le voisinage. Son fils, Henry, revint du collège pour aider son père dans son commerce. Ce jeune homme et ma fille, Alma, devinrent amoureux l'un de l'autre et nous les mariâmes. Tout le village approuva cette union. Quelques personnes, cependant, disaient « C'est malheureux que le père soit buveur à ce point, bien qu'on ne puisse blâmer la pauvre fille à cause des vices de son père. Ah, monsieur, quel beau couple ! Le jeune homme était grand, fort, instruit et cultivé. Sa jeune femme était digne de lui. Ma femme fit son possible pour l'honneur de la famille à l'occasion de ce mariage, mais le repas de noces fut pour moi un nouveau prétexte pour m'enivrer copieusement. Le train approchait, et j'essayais de quitter le vieux bonhomme. » Mais il se cramponna à moi, me montrant une cicatrice rouge, affreuse, en forme de fer à cheval, qui se cachait sous sa barbe. « Monsieur, me dit-il, voyez-vous cette cicatrice ? Oui, oui, mais il faut que je parte. Eh bien, laissez-moi monter à côté de vous, et je vous raconterai la suite. Soit, montez. » Cette cicatrice mystérieuse et ce nez déformé excitaient ma curiosité. C'étaient ces deux choses-là qui, malgré les yeux bleus et assez beaux du vieillard, lui donnaient si mauvaise apparence. Quand nous fûmes assis dans le wagon, je lui dis en plaisantant « Je suppose que vous avez là des marques d'une noce plus soignée que les autres ?» Il me répondit « Mon histoire ne ressemble à aucune autre. Généralement, on sait comment se terminent les histoires d'ivrogne, mais attendez un peu. Je n'ai pas bu une goutte de boisson fermentée depuis plus de 30 ans. Je sais que je ne suis pas beau. » Les gamins courent après moi en criant « Voilà le vieux toqué !» Ils ont raison, peut-être, mais cela ne m'arrête pas. Mon temps se passe à avertir les jeunes gens. Je suis moi-même un avertissement vivant. Cette cicatrice m'a été imprimée par le coup d'un pied de cheval. Mais ni cela, ni la difformité de mon nez, résultat d'un pugilat après boire, n'était très perceptible avant que l'eau de vie eût fait son œuvre. Quand je rentrais ivre à la maison, ces marques devenaient enflammées, oui, toutes rouges et hideuses. Quand ma femme et mes filles les voyaient, elles fondaient souvent en larmes. Ah, que de fois en voyant leur douleur, en sentant que je perdais peu à peu l'estime de ma famille et de mes concitoyens, j'ai essayé de me corriger. Enfin, un jour, ma petite Jeannette vint en sautant de joie m'annoncer qu'il y avait chez Henri et Alma un bébé nouveau-né et qu'il me ressemblait. C'était mon premier petit-fils. Naturellement, dès qu'il me fut possible d'aller voir ma fille et son nouveau trésor, je me rendis chez les Brown. Malheureusement, je rencontrai un camarade de boisson aux confins du village. « Le premier petit-fils, me dit-il, il faut célébrer sa naissance. » Et nous allâmes boire un coup. Je ne me souviens plus de ce qui se passa pendant les quelques jours suivants. Je revins chez moi, à jeûne et tout honteux, et ma pauvre chère femme voulut bien me recevoir encore. Quelques jours après, je rendis visite à Alma. Ma fille était entourée de bien-être et de luxe, tout ce qu'un mari riche et passionné peut offrir à une femme, elle l'avait. Henri n'était pas là. Alma était assise sur sa chaise à bascule, le bébé endormi reposait sur son sein. Elle me vit à peine. Elle regardait au loin d'un air égaré, et ses yeux étaient rougis par des pleurs qu'elle avait essuyés. « Pourquoi ces larmes ? » demandai-je. « Qu'arrive-t-il, cher enfant ?» Je lui parlais de ma voix la plus enjouée, mais à mon grand effroi, Alma ne me répondit pas un mot, ne m'adressa pas un regard. À la fin, comme par une impulsion soudaine, comme en un rêve, elle se leva, et tenant l'enfant sur un bras, elle souleva la petite couverture et me montra le visage de son bébé âgé de 15 jours. Puis elle recouvrit l'enfant, le remit dans son berceau, et voilà en sa face de ses deux mains, elle s'écria « Mon Dieu, pardonne-moi, tu sais que je ne suis pas impie et qu'il n'y a personne qui puisse me délivrer de ta main. » Citant Job, chapitre 10, verset 7. Je ne connaissais pas la Bible, alors, mais je compris le sens de cette exclamation. L'enfant portait une marque horrible et changeante. C'était le fac-similé de cette cicatrice. Le petit innocent, sans que ses honnêtes parents y fussent pour rien, portait sur sa face la double empreinte de mon vice. À chaque regard jeté sur son enfant, ma fille était devenue de plus en plus désespérée et ma visite la mit hors d'elle-même. Sa tristesse prit une forme étrange. Elle s'imagina que son mari ne lui pardonnerait pas, à elle, la fille d'un buveur, d'avoir mis au monde un enfant portant des stigmates de honte. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais bu. Le singulier vieillard me laissa à la station suivante, mais il avait eu le temps de m'apprendre que la pauvre Alma dut être internée dans un asile d'aliénés. Quant à Henri, parti pour la guerre, il ne revint jamais. Le petit enfant fut laissé à mes soins. Je le gardai jusqu'à 15 ans. Les marques rouges devinrent de plus en plus apparentes, et le pauvre enfant marchait et parlait comme s'il avait été pris de vin. Il était à moitié idiot. Il m'a quitté sans rien dire, et il est maintenant quelque part, luttant pour la vie parmi les hommes. Peut-être rencontrerez-vous mon petit-fils dans vos voyages. Dites-lui que son pauvre vieux grand-père l'attend depuis 16 ans. Mon occupation, c'est d'avertir les jeunes gens, de peur que comme moi et les miens, ils ne tombent sous l'horrible malédiction de la boisson. Au revoir. Dieu vous bénisse, cher monsieur.